7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins pour se parler chaque jour du nord au sud de vos vies quotidiennes. Aujourd'hui, comment pratiquer la communication sans violence? C'est vrai qu'à l'heure du déferlement de haine sur les réseaux sociaux et du ton qui monte très vite pour en venir parfois aux mains, apprendre à se maîtriser et à communiquer sans violence, eh bien, ça peut servir. Car il existe bien des codes dans la parole pour désamorcer la violence en face de soi et en soi-même. Vos questions et vos messages sont très nombreux sur le sujet. L'énervement est partout et palpable dans la cohabitation entre citoyens, entre voisins, dans la famille, au travail. Nous allons y répondre avec nos invités. Marie-Jeanne Trouchot, vous publiez un guide efficace pour pratiquer le dialogue et convaincre. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Ça s'appelle la communication sans violence.
Bonjour les voisins.
Vous êtes formatrice en relations humaines et psychothérapeute et spécialiste de la communication sans violence. Également dans le studio, une médiatrice familiale. Bonjour.
Bonjour.
Myriam Morange, vous êtes médiatrice familiale, directrice adjointe à l'Union départementale des associations familiales dans le Pas-de-Calais. Nous verrons aussi ce que donne la médiation en milieu scolaire ou dès l'école primaire. La violence physique arrive très vite. Nous, ce qu'on appellera les bagarres finalement entre les enfants. Nous serons en ligne avec Natacha Dumais de l'Académie de Créteil. Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, hein, personne n'est épargné par la violence verbale ou physique. Appelez-nous dès maintenant si vous vous sentez gagné par la colère ou au contraire si vous sentez l'âme d'un médiateur ou d'une médiatrice. Vous avez la parole, appelez-nous dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission au 33 1 84 22 71 71, on vous rappelle immédiatement. Je vous lis quelques messages postés sur le fil Facebook. Alors là, aujourd'hui, c'est le rendez-vous des énervés sur notre fil, mais avec une excellente lucidité, vous allez voir, mesdames. Paula, à Paris, me dit « Je m'énerve vite, surtout quand je veux exprimer mes opinions. Les gens se sentent alors agressés, alors que c'est pas du tout le cas. Je suis emportée par une fougue, une passion. Du coup, ma voix et mes intonations changent. » Abdallah, qui est au Burundi. Je ne peux pas m'exprimer sans être énervée, nous dit Abdallah. Pour moi, c'est une façon de convaincre mon interlocuteur. À cause de ça, les gens me fuient. Bruno nous écrit d'Israël. Mes colères récentes m'ont coûté cher et ça aurait pu être pire. J'ai besoin qu'on m'aide à me calmer. Eh bien, cette émission, c'est pour vous, Bruno. Josiane, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'ai le sang chaud. Dernièrement, je me suis disputée avec des amis. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je ne voudrais pas que cela arrive de nouveau. Mamadou, à Conakry, je m'énerve rapidement, nous dit Mamadou, surtout lorsque mon interlocuteur refuse de me comprendre. Bon, est-ce que l'interlocuteur refuse de comprendre ?
L'interlocuteur est aussi persuadé d'avoir raison que nous-mêmes. Et justement, il y a dans cette conviction réciproque le meilleur des possibles, à condition de penser à la sincérité réciproque, justement, parce que personne ne se lève le matin en se disant « je vais être malheureux ». Mais bien des gens font tout ce qu'ils font pour se rendre malheureux. Donc l'idée, c'est d'avoir tout d'abord une espèce d'a priori et de confiance sur l'intention positive de moi-même, bien sûr, mais de l'autre aussi.
Voilà.
Et donc, ça ouvre un espace de dialogue vrai.
Lassana, lui, il a 29 ans, il est à Bamako, au Mali, il a tout compris. Communiquer, c'est un plaisir, j'apprends des autres, mais lorsqu'il y a une dispute, je garde mon sang-froid tout en défendant mes opinions. Appelez-nous pour dialoguer avec nos invités. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Camille attend vos appels, 33 1 84 22 71 71. Marie-Jeanne Trouchot, Myriam Morange, vous êtes sollicitées l'une et l'autre dans quel genre de situation, Myriam Morange ?
Alors, nous sommes sollicitées dans les situations de conflit, de couple, de conflit parental, lorsque la séparation, le divorce ont sonné, avec les problèmes d'autorité parentale, dont personne ne sait ce que c'est, de résidence, de droit de visite, de pension alimentaire, parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre. Quand on ne se supporte plus ou quand on souffre en amour, et notamment des amours, ça se solde par, au travers de l'enfant ou de l'argent.
Et la communication dans ce cas-là passe souvent par un certain type de violence,
la communication,
physique ou moins verbale.
Il faut savoir qu'au niveau des séparations conjugales, la violence verbale, psychologique, c'est-à-dire la baisse d'estime de soi, hein, le fait d'être rejeté en amour, le fait d'être nié et de nier tout ce qu'on a pu vivre avant, qui pour partie était magnifique, est extrêmement dévastateur. Ça veut dire aussi qu'un jour on est jeté. On est jeté avec tout ce que ça représentait. Et vient, dans l'entre-deux parfois, un enfant qui va se retrouver otage de parents qui vont se déchirer.
Qui ne savent pas communiquer.
Qui sont dans l'incapacité de communiquer parce qu'ils sont parasités par ce couple déchiré dont ils ne peuvent pas parler. Donc le médiateur familial intervient à ce moment-là.
Marie-Jeanne Trouchot, vous intervenez dans quel genre de situation ?
J'interviens exactement dans le même genre de situation, mais aussi dans les situations par exemple au travail, au boulot, avant que les couples ne se déchirent aussi, quand ils essayent de se réparer. J'ai aussi beaucoup de demandes de parents qui m'emmènent leurs adolescents en me disant « Mon adolescent, ça va pas du tout, il faut le réparer, quoi, ça va pas. » J'essaye justement toujours de rétablir une vraie communication entre l'adolescent qui est dans une vision de sa vie et puis le parent qui est dans une autre vision de sa vie.
Mais au travail, quand même, on pourrait se dire que les gens se lâchent moins que dans leur vie privée, tout de même. Vous êtes appelé sur des cas vraiment d'incapacité à communiquer autrement que par de la violence verbale.
Alors, il n'y a pas que de la violence verbale, il y a de la violence aussi de mépris, de la violence d'humiliation, des petites choses de tous les jours, des petits harcèlements. Et tout ça, c'est souvent que j'entends « Oui, mais l'autre, c'est un pervers narcissique. » C'est avec vraiment des étiquettes terribles sur l'autre qui ne fait pas ce que nous attendons. Alors que l'autre, simplement, ben, il a ouvert la fenêtre parce qu'il avait chaud et pas pour m'embêter.
Alors, c'est vrai qu'il suffit d'observer les gens autour de soi, les situations, pour constater que certains chauffent plus vite que d'autres. Avons-nous, pour certains d'entre nous, plus de prédispositions? C'est une affaire de caractère, c'est une affaire de passé dans la vie familiale, Marie-Jeanne Trouchot?
Alors là, vous touchez vraiment ma fonction de thérapeute. Effectivement, lorsque nos émotions ont été blessées, on perd confiance en soi. On n'a plus justement l'adéquation entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons, et ce que nous osons dire et faire, et être. Et c'est à partir de là, justement, que ça embrouille la communication, parce que notre communication n'est plus claire. Elle est handicapée par nos émotions qui ont été blessées dans l'enfance, par notre éducation, par nos parents, par l'école, par tout ce qu'on a croisé enfant.
Fanta nous envoie le message suivant de Conakry. Il nous dit « J'ai été élevée dans les cris et la non-communication. Je n'arrive pas à m'en débarrasser car je crie souvent, je m'énerve facilement, je n'arrive pas à m'exprimer autrement. Auriez-vous une solution pour m'aider ?» Quand on a grandi dans une famille où ça crie.
Alors, je pense que dans ces cas-là, justement, c'est très important de pouvoir crier, hurler, mais vers un symbole de ce qui nous a fait souffrir. C'est-à-dire que il pourrait aller crier face à un fleuve, face à un arbre, en disant tout ce qu'il a à reprocher justement à son enfance et à tout ce qu'il a souffert. Justement, ça lui éviterait ensuite de crier face à ceux qui ne lui ont rien fait.
Est-ce que les couples qui se déchirent sont des couples qui ont grandi eux aussi dans une difficulté de communication dans leur propre famille ?
Non, ça concerne toutes les origines et toutes les conditions de vie, hein. Par contre, il est important de souligner que la question de la violence intrafamiliale est quelque chose d'extrêmement dévastateur aussi et qu'il faut pouvoir poser. Alors les espaces de médiation familiale le permettent. Vous évoquiez la question d'un jeune ou d'un adulte confronté et quelque part victime de ce rappel à la violence continuellement. Il est tout à fait possible de l'évoquer aussi avec les parents. que l'on a eue pour pouvoir poser et cette difficulté liée à la violence et aussi pouvoir la dépasser. L'accompagnement doit être pluriel et psychologique, juridique. Forcément, à un moment donné, il y a un dérapage possible puisque les procédures pénales prennent en charge la question de la violence et il faut éviter d'en arriver là. Mais vraiment, il leur faut des espaces de parole et de d'aide au dépassement de la violence pour ne pas la reproduire aussi.
Vous disiez, ça vient, enfin, cette violence dans la famille, dans le couple, par exemple, cette difficulté à communiquer, elle vient dans les familles de toutes origines parce que forcément, on peut se poser la question. Certains se la posent. Est-ce que la difficulté à communiquer calmement vient parfois d'une difficulté à poser des mots, à formuler, donc une difficulté à manier la langue.
À manier la langue, oui. Déjà, il y a l'autre face à soi qui a sa propre carte du monde. Et en général, nous avons la nôtre. Donc, il y a un conflit de frontières. Il est important aussi de faire le pas de côté, de se dire, mais qui ai-je en face de moi, même si j'ai vécu avec pendant 20-30 ans.
Non, mais la question c'est, est-ce que ça peut venir d'un défaut d'éducation ? Sortir les points au lieu de sortir les phrases.
Je pense que c'est plus au niveau d'une culture, d'une approche que l'on a eue dans la famille. En même temps, il n'est jamais trop tard pour se donner les moyens d'entrer en communication non violente avec l'autre différent de soi. Et c'est une grande opportunité et richesse que de s'en donner les moyens.
Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71. Vous nous soumettez vos sujets d'énervement et on en discute avec vous en direct chez 7 milliards de voisins.
Combien de fois la nuit de ses amours sinistrées a-t-elle tout enveloppé de tristesse, parfois d'amertume, nourrie d'idées noires et de mélancolie. Combien de fois la lune pâle et maladive est-elle venue éclairer les maudites brèches à son cœur, fêlure du désenchantement, du décompte de fées, de l'âpreté. Combien de fois avait-elle regardé les étoiles briller ? Combien de fois ? Combien de fois lui paraissait-elle taciturne comme son âme nocturne ? Mais combien de fois aussi, irrémédiablement, le soleil s'était-il levé ?
Une vraie voix pour la communication sans violence, c'est Elios Melt in Motherland chez 7 milliards de voisins. Vous écoutez RFI et nous parlons de cet apprentissage parfois long, difficile pour communiquer sans violence physique, sans violence verbale, sans violence psychologique. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Annabelle.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir, Annabelle. Vous êtes étudiante, vous habitez en résidence étudiante et ça se passe pas forcément toujours très bien, je crois.
Oui, en fait, ça se passe pas forcément toujours très bien parce qu'il y a des voisins qui mettent la musique tout le temps et c'est super haut, même quand tu es en période de composition d'examen. Et quand tu leur dis que ça te dérange, eux, en fait, ils s'en foutent. Ils ne font qu'augmenter le volume. Et à la fin, toi aussi, tu prends cette habitude-là. Pour qu'ils te comprennent, il faut que tu fasses la même chose, c'est-à-dire mettre le volume quand eux aussi composent.
Ah oui, donc c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, vous êtes là dans une logique avec vos voisins de chambre, de couloir, etc., dans la surenchère, quoi.
Oui, oui, c'est assez compliqué.
Oui, mais vous avez tenté autre chose, Annabelle, pour faire que vos voisins baissent la musique lorsque vous composez, lorsque vous faites vos examens?
Bien sûr, bien sûr. D'abord, j'ai parlé avec eux, vu que ce sont d'abord mes voisins. Je dis, s'il vous plaît, essayez de baisser. Tu le fais 5-6 fois. Ils baissent d'abord, mais pendant 10 minutes, mais après, ça continue. Et à des heures, genre minuit, 22 heures.
Ah oui.
Et après, ils te disent que c'est avec la musique qu'ils réussissent à étudier. Mais toi, tu ne réussis pas à étudier avec la musique, c'est compliqué. Après, tu te plains à l'administration, mais c'est presque souvent compliqué à l'université de Yaoundé. C'est franchement compliqué. C'est comme si l'administration n'a même pas notre temps.
C'est ça, l'administration ne parvient pas à faire appliquer un règlement, finalement.
Justement, c'est un peu ça.
Marie-Jeanne Trouchot, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Annabelle qui vous écoute, là?
Alors, c'est vrai que je comprends l'exaspération que peut ressentir Annabelle. Bonjour, Aya. Et j'ai écouté vraiment attentivement ce qu'Annabelle disait. Elle disait, tu leur dis ceci, je leur ai dit cela, j'ai parlé de cela. Et peut-être, elle arriverait à de meilleurs résultats en commençant par écouter ce que vivent ses voisins désagréables, enfin, qui lui font quelque chose de désagréable. Mais peut-être leur dire, je comprends bien que vous avez besoin, envie d'écouter de la musique, je respecte votre besoin, moi aussi j'ai un besoin, comment nous pourrions étudier ensemble une solution qui nous satisferait les uns et les autres? Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Nous parlons de notre désagrément, mais nous ne tenons pas compte de la réalité. Tout à l'heure, Myriam parlait de territoire. Qu'est-ce qui se vit de l'autre côté? À quel besoin ça correspond de l'autre côté aussi?
Parce que si je comprends bien, Annabelle, quand vous frappez à la porte de vos voisins qui mettent la musique très fort à 23h, minuit et bien au-delà, quand vous frappez à la porte, forcément vous êtes énervée.
Généralement, je frappe pas à la porte parce que j'ai pas été habituée à frapper aux portes des gens la nuit. Donc souvent, j'attends le matin quand je les vois le matin, bien le soir.
Oui, c'est ça. Donc déjà, vous avez un bon réflexe. Vous attendez, vous laissez passer quelques heures, que tout le monde soit au calme.
Oui. Et généralement, le matin et en journée, je lui dis que la musique que tu as mis toute la nuit, là, ça m'a dérangé, j'ai pas pu étudier. Et souvent, ils me répondent, mais c'est avec la musique que nous, on étudie. Musique, elle est à fond.
Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait, Marie-Jeanne Trouchot?
Alors, justement.
Certains doivent étudier avec de la musique, sinon ils n'y arrivent pas, et les autres non.
Alors, justement, dans ces cas-là, on respecte le besoin de l'autre, et on dit, moi, j'ai un autre besoin, donc comment on va délimiter des temps où vous aurez ce dont vous avez besoin de la musique, et où j'aurai ce dont j'ai besoin du calme?
Ça pourrait être quoi, ces délimitations?
Peut-être une convention de temps, de durée, peut-être mettre des écouteurs, peut-être il y a différentes options.
Myriam Morange.
Ça évoque pour moi la question des conflits. Vous savez, des tanguis, on en parle beaucoup. Hein, ils restent là dans la famille.
Les enfants qui ne partent pas du foyer familial
et qui ont leur manière de vivre, de se lever à une heure de l'après-midi. Et je me souviendrai toujours d'une situation où vraiment les parents ont monté en pression, ne supportaient plus ce non-respect des règles de vie, du vivre ensemble. Bon. Et ils ont déclenché des états généraux de la famille, ils se sont inventés ça. Ça veut dire on se met tous autour d'une table. Et comment permettre de bien vivre ensemble avec des règles communes et des incontournables aussi.
Annabelle, vous pourriez imaginer ça, de monter des états généraux du couloir là et des différentes chambrées pour discuter de la place de la musique au-delà d'une certaine heure quand tout le monde étudie?
Non, je pense pas. Parce que la plupart du temps, dans un campus, personne n'a le temps de personne, en fait. C'est souvent comme ça.
Personne n'a le temps de dialoguer, mais c'est justement ça qu'il faut faire, hein. C'est prendre le temps de dialoguer. À mon avis, il y a des solutions, hein, pour aménager le temps de chacun pour écouter de la musique sur un campus universitaire. Vous nous appelez, les voisins, les voisines. On parle de la communication sans violence et sans énervement. 33 1 84 22 71 60.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la communication sans violence. Écouter l'autre, parler calmement au lieu de crier, d'injurier, voire plus. Cela s'apprend, il ne s'agit pas non plus de renoncer à ce que l'on veut obtenir. Communiquer sans violence ne signifie pas une soumission aux volontés de l'autre, même s'il existe bien sûr, hélas, des limites à l'exercice. Soyons lucides et on en parle avec vous, Marie-Jeanne Trouchot. Vous publiez un guide pratique qui s'appelle « La communication sans violence » et Myriam Morange, vous êtes médiatrice familiale et vous nous parliez des difficultés grandissantes de communiquer dans les couples, au sein de la famille aussi, entre les parents et les enfants. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous nous appelez pour nous parler de vos colères, de vos victoires et puis aussi pour partager vos solutions. On a des messages très intéressants aussi sur les solutions. Voici le numéro de téléphone du standard. Camille reçoit vos appels. Vous avez la parole dans quelques instants.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Les voisins et les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
33 1 84 22 71 71. Ça y est, c'est bien noté, vous l'avez mémorisé dans le téléphone portable, j'en suis sûre. On accueille Molou qui est en Guinée. Bonjour Molou.
Bonjour Emmanuel Bratfield.
Molou, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes un voisin qui chauffe vite, avez-vous dit au standard. Vous avez 22 ans.
Oui, j'ai 22 ans et comme vous êtes au standard,
ouais.
Je suis quelqu'un qui m'énerve très rapidement.
Ouais.
Et surtout dans les discussions avec les amis.
Ouais.
Et donc, en cas de discussion entre les amis, facilement, si mon opinion n'est pas prise en compte, je m'emporte. Et voilà, même derrière, il y a des coups, des points qui s'en sortent comme résultat.
Ça se termine finalement en bagarre entre vous et vos amis?
Oui. Ah oui, ça se termine finalement en bagarre entre mes amis et moi.
Est-ce que c'est à propos de quel genre de conversation que ça chauffe aussi vite et si loin?
C'est surtout à propos des conversations scientifiques. Mais surtout aussi politique.
D'accord. Conversation scientifique, pourquoi? Parce que vous êtes étudiant dans le domaine de la science?
Bien, quand j'ai dit conversation scientifique, je vais parler des cours que donnent nos professeurs, ainsi quand on lance un débat, et le professeur peut dire, bien, comme vous êtes, vous pouvez chercher des idées par rapport à cette situation, donc on se lance dans le débat.
Oui.
On commence à discuter entre nous un peu.
D'accord. D'accord. Et puis sinon, évidemment, la politique. Ouais.
Oui, la politique.
Mais si vous nous appelez, c'est que dans le fond, vous êtes assez mal à l'aise. Vous regrettez ensuite d'avoir tapé sur vos camarades?
Justement, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et je vais un peu vous parler de cette anecdote. Je me trouvais une fois en classe... Et lorsque mon professeur de philosophie a commencé à dispenser son cours,
oui.
C'était juste au niveau de la définition de la philosophie.
Oui.
Et voilà, mon professeur nous dit, est-ce qu'on peut donner une définition particulière à la philosophie? Et automatiquement, en classe, je suis le plus sollicité. Je me lève, je dis non, on ne peut pas. Et une fois que j'ai su préparer mes interventions, il y a un de mes collègues, le deuxième de la salle, il me dit, ah non, on peut donner une définition à la philosophie. Et donc, le fait est que de se lever pour interrompre ma parole ou mon intervention...
Oui, vous n'avez pas supporté qu'il vous interrompe et qu'il ne soit pas d'accord. Mais alors quand même, et là vous en êtes venu aux mains aussi, vous avez tabassé votre copain en plein cours de philo, c'est ça, Molou?
Très bien, tout de suite, j'étais sur lui, on a fait...
Ah oui, carrément devant le prof de philo, donc.
Vous êtes tous, mais j'étais sur lui, on a fait un peu de combat, et par après, nous ont conduit à la direction devant le proviseur.
Oui, et vous avez été sanctionné ou pas?
J'ai été sanctionné, mais pas aussi comme les autres, parce que j'étais quelqu'un qui est écrit
Bon, bah écoutez, je crois qu'on a bien compris le problème, mais si vous en venez aux mains, même en cours de philo, alors là, c'est quand même bien embêtant, Molou. On essaye de vous répondre, bien sûr, avec nos invités, Marie-Jeanne Trouchot.
Alors,
parce qu'il a envie qu'on trouve des solutions, bien sûr, parce que quand même, ce serait dommage qu'il se brouille avec toute sa classe.
Et puis, il est en difficulté.
Ouais.
Donc, il faut effectivement trouver des solutions pour sortir de ces difficultés. Moi, ce que je proposerais, c'est que on dise, selon moi, il n'y a pas de définition à la philosophie. Si j'affirme, il n'y a pas de définition à la philosophie, j'affirme quelque chose qui ne laisse pas la place à l'autre. Si je dis, selon moi, l'autre peut avoir une opinion différente de moi. Et s'il a une opinion différente de moi, je peux lui dire, ah bon, qu'est-ce qui fait que, pour toi, c'est différent de moi? Et moi, je t'explique pourquoi, selon moi, je pense ceci ou je vais défendre cela.
C'est-à-dire s'obliger à écouter l'autre, finalement.
Pouvoir vraiment se respecter, se distinguer et affirmer nos convictions avec puissance, avec tranquillité, mais dans le même élan, respecter que l'autre puisse avoir une autre opinion et donc pouvoir l'écouter, en effet.
Et en prolongement, être aussi force de proposition, disons, est-ce qu'un troisième étudiant aurait aussi, lui, à apporter sa contribution par rapport à ce que nous venons d'évoquer, d'être dans quelque chose de participatif et de collectif, oui, pour ouvrir à les possibles. On ne sait pas ce qu'ils seront,
et mais on ne ferme le pas
et voilà, et on met la bonne distance et tout le monde devient suggestif et force de proposition, et même l'enseignant qui a aussi sa place.
On accueille une maman qui, semble-t-il, est en grande difficulté en région parisienne au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Juliette.
Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Voilà, moi je vous appelle parce que j'ai un fils qui a un tempérament colérique. Et si on dit quelque chose qui le fâche, ça déclenche un genre, vous savez, de tempête ou d'incendie cérébral qui peut absolument plus maîtriser avec des paroles assassines, très blessantes. Et évidemment, il en souffre et il s'excuse tout de suite, hein, immédiatement. Mais c'est très dévastateur pour l'entourage, extrêmement blessant et pour tout le monde et même pour lui. Et je voulais savoir s'il existait une technique pour éviter de voir rouge, quoi. Qu'il voit rouge.
Il a quel âge, votre fils, Juliette?
Il a 35 ans.
25 ans.
35,
pardon.
En couple, des jumeaux. Mais tout le monde en souffre.
Il a toujours été comme ça?
Oui, depuis l'âge de 16 ans.
Alors, évidemment, là encore, c'est une situation vraiment humainement terriblement délicate. Et madame vraiment précise à quel point tout le monde en souffre, y compris ce jeune homme ou cet homme.
Ah oui, il en souffre.
Et je crois que c'est important, lorsqu'il faut comprendre aussi le fonctionnement du cerveau. Lorsque quelqu'un sort de ses gonds, c'est un certain territoire du cerveau qui fonctionne. Et on ne peut pas, sur le moment, s'adresser à la partie raisonnable. On est dans
absolument.
Voilà. Donc à ce moment-là, on ne rétorque pas, on n'essaye pas de calmer, on n'essaye pas de moraliser, on n'essaye pas d'arrêter.
Donc on laisse couler le flot.
On laisse couler le flot, comme quand un enfant hurle, on n'essaye pas de lui expliquer quelque chose, on dit oui, voilà, ça va aller.
Oui, ça c'est pour nous, mais pour lui, comment il peut faire pour pas voir rouge?
Alors, pour lui, si vraiment il en souffre beaucoup, c'est vrai que mon conseil serait qu'il puisse comprendre d'où vient sa blessure, sur laquelle on vient appuyer, pour qu'il ne puisse pas supporter. Et ça, c'est peut-être une démarche, justement, d'aller comprendre avec quelqu'un, peut-être,
ce qui se passe pour lui. Qu'il était suivi par un psychologue, elle me l'a appris, là, à cette occasion.
Donc rien à faire pour prévenir ou pour faire quelque chose dès le début d'un accès de colère.
Alors il peut aussi peut-être avoir, vous savez, ça, ce sont des thérapies comportementalistes. Il peut avoir une espèce de petit gris-gris, quelque chose qui, vous voyez, par exemple en hypnose, l'habituer à avoir un objet qui symbolise un moment de calme et de bien-être, et qu'il l'ait apporté à tenir dans sa main pour se remettre dans un état de calme et de sérénité attaché au contact de cet objet. Ça peut être peut-être une petite aide.
Ah, ça, c'est vrai, c'est une très bonne idée.
À soumettre à l'ensemble des voisins également. Merci d'avoir appelé Juliette. Kébé, à Niamey, qui est au Niger, nous dit, pour ne pas s'énerver, il faut avoir confiance en soi, il faut connaître son interlocuteur, l'écouter, s'adapter et l'accepter. Ça, on a beaucoup parlé de l'écoute depuis le début de l'émission. Ou encore Massama, qui est à Dakar, savoir communiquer, c'est adapter son message à son interlocuteur. Nous nous n'interprétons pas tous le même message de la même façon. Voilà d'où viennent les incompréhensions communicatives. 33 1 84 22 71 71. Reportage maintenant. Vous allez voir, ça se passe à Aubervilliers, profession médiateur en Seine-Saint-Denis. Signe particulier du département, 22% de chômage, 52% des jeunes de 18 à 24 ans ne sont plus scolarisés, souvent d'ailleurs avant le baccalauréat. Et depuis 2 ans, eh bien, les communes du département misent sur la médiation de nuit. À Aubervilliers, donc, 12 médiateurs sillonnent souvent par binôme plusieurs quartiers chauds. La plupart d'entre eux ont grandi là, d'ailleurs. Ils viennent rétablir un lien qui est souvent rompu. Charlie Dupiot a suivi Sabrina et Bachir, la trentaine, dans leur deuxième et dernière maraude de la soirée. Il est 22h15, le moment d'enfiler leur parka noir aux lettres blanches, médiateurs de nuit.
Alors nous, on est parti, on pensait à prendre les badges et les sacoches.
Non, c'est fait,
c'est fait. Ok. Ah, bon courage.
Donc là, on part à deux. Donc le collègue, il part avec une sacoche où il y a les badges des bâtiments dans lesquels on doit entrer pour vérifier s'il y a des squats ou des dégradations qu'il faudra remonter après. Comme des grands frères ou des grandes sœurs qui donneraient des conseils, parce que c'est vrai que la population qu'on rencontre est assez jeune, on leur explique bien qu'on n'est pas de la police. À partir de ce moment-là, le contact se fait facilement. Mais ça, c'est un travail qu'il a fallu mettre en place, surtout les premiers mois, parce que c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément super facile. On arrive à la cité du secteur.
On va faire un immeuble, le bâtiment B4. L'une de nos tâches, on va faire les bâtiments, vérifier qu'il n'y ait pas de squat. Donc là, on va faire surtout les derniers étages, là où ça squatte le plus en général.
11e étage.
Les jeunes, en général, quand ils squattent ici, ils ne vont pas se prendre la tête, ils vont se poser là.
Donc là, on est vraiment dans une cage d'escalier.
C'est un local, quoi. C'est vraiment un endroit où ils vivent pendant plusieurs heures au cours de la nuit. Et comme disait mon collègue, pour fumer, manger, boire. Donc on prend aussi des photos, des traces de présence. Donc là, c'est clairement des mégots. Cigarette entamée mais pas allumée. Donc là, c'est pour rouler un joint, clairement. Après, on sait identifier ce qu'ils en font. Et là, clairement, c'est du squat. Donc on revient parce qu'ils sont pas là.
L'idée, c'est de pouvoir les rencontrer pour leur parler, en fait.
C'est ça. De dire, bah, les gars, hier, on est passé, vous nous avez dit que vous passerez plus. Pourtant, on est venu tout à l'heure, il y avait des traces. Des fois, c'est des phrases toutes bêtes. En l'occurrence, gêner des gens qui vont se réveiller à 4h du matin, pour eux, si vous ne leur dites pas, ça coule pas de source. Parce que généralement, ils squattent pas là où ils habitent. Et le fait de les mettre face à ça en leur disant, t'aimerais bien, toi, qu'il y ait un groupe de gamins de ton âge qui traînent dans ton bâtiment. Tes parents, ils se réveillent à quelle heure demain matin? T'aimerais bien qu'il y ait du monde qui fasse du bruit là où ta mère, elle habite? C'est-à-dire que demain, il y a une femme qui va venir et qui va nettoyer derrière toi tes saletés. Ta mère, elle fait pas le même boulot par hasard? Ou une tante ou quelqu'un? Donc du coup, ça a un impact. Ah ouais, ah ouais. Quand c'est des jeunes, le travail, il se fait plus facilement. Parce que ou tu parles comme une grande sœur, ou tu parles un peu avec l'instinct maternel, oh, c'est pas bien, etc. T'as d'autres cités où les gens qui squattent sont plus difficiles à gérer parce que déjà, ils ont un certain âge. Donc du coup, tu parles un peu d'égalité à égalité. Donc là, ils peuvent vite te prendre sur tes deux hauts, mais t'es qui pour me dire ce que je dois faire? Donc c'est pour ça que la communication et le dialogue, c'est vraiment la base de notre travail, quoi. Et c'est vrai que c'est important après de les féliciter. Merci les gars, c'est cool. La grosse différence avec la police, d'où le fait qu'on soit complètement accepté aujourd'hui.
Quel impact vous pensez que ça a, en fait, votre médiation?
Alors l'impact ne se mesure pas au jour le jour. Donc un an après, tu peux te rendre compte par les chiffres, ou même ne serait-ce que toi, sur ta maraude, tu dis, ah ouais, tu te rends compte quand même, il y a un an, à cet âge-là, ils étaient une douzaine, ah bah maintenant ils sont en bas et puis ils sont loin du bâtiment. Après, où est-ce qu'on les retrouve? Bah des fois, on les retrouve dans des secteurs où on ne va pas. Voilà. C'est aussi la réalité de notre travail. C'est que on joue un peu au chat et à la souris, malheureusement. C'est un peu la limite de la médiation parce que nous, on n'a pas non plus des outils extraordinaires. Et ça, c'est au niveau national, donc on n'est pas des magiciens non plus. La réalité du chômage, c'est une réalité pour tout le monde, pas que pour Aubervilliers. La médiation, c'est la base. C'est la base. Mais sans outils comme la formation ou comme la réinsertion professionnelle, t'es une base qui n'est pas productive sur le long terme et qui, malheureusement, a ses limites.
On n'est pas Pôle emploi non plus.
On n'est pas Pôle emploi, mais on a envie d'être ça parce que le seul outil qui puisse faire que le squat soit plus une réalité et que tu trouves plus que 2-3% des jeunes dehors, c'est la réinsertion.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Alors, est-ce que la communication sans violence et la médiation ne devraient pas s'apprendre finalement dès l'école? Nous avons posé la question, nous allons poser la question à Natacha Dumais. Bonjour.
Bonjour.
Pour parler de l'apprentissage de la médiation dans les écoles, vous êtes bien placée puisque vous êtes à l'Académie de Créteil, coordinatrice réussite éducative prioritaire. Et justement, vous menez des expériences avec le réseau France Média Monde pour France Médiation pour former des enfants à devenir médiateurs dans leur école, très très jeunes. Hein, parfois, ils ont 10-11 ans. Comment ça marche? Quels sont d'abord les incidents violents qui se répètent le plus souvent dans les cours de récréation?
Alors déjà, ils ont entre 8 et 10 ans, puisqu'on les prend à partir du CE2. Et les incidents les plus importants sont des insultes, des petites chamailleries d'enfants, mais qui peuvent pourrir une cour de récréation. Voilà, et qui peuvent après faire que des violences beaucoup plus graves arrivent.
Et alors, quelles sont les méthodes enseignées? Certains enfants sont désignés ou sont volontaires pour devenir médiateurs pour leurs propres camarades?
Avant tout, il faut qu'ils soient médiateurs, il faut qu'ils soient volontaires, pardon. Donc, on leur explique un petit peu la mission. Les médiateurs qui ont été formés sur Saint-Ouen ont eu un médiateur social en milieu scolaire dans leur école, donc ils ont vu un petit peu son travail. Ensuite, on passe dans les classes et ils font des lettres de motivation. Alors, motivation pour être médiateur ou pour ne pas être médiateur. Et ce qui nous explique, et on voit le pourquoi et le derrière, en fait, si vous voulez, les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas.
Mais alors, ceux qui sont volontaires.
De toute façon, volontaires.
Voilà, ceux qui sont volontaires, qu'est-ce que vous leur enseignez, finalement? Ils ont un gilet, ils sont très visibles dans la cour de récré. Il y a des enfants qui viennent les voir en disant « Oui, tu te rends compte, il m'a insulté, etc. » Qu'ont-ils comme réponse?
Alors en fait, on les forme, on les prend sur un certain nombre d'heures et on les forme à l'empathie, on les forme à l'observation de la cour de récréation, justement comment est-ce que naît un conflit entre deux camarades. On les forme à l'observation, donc à l'écoute et ensuite essayer de trouver des solutions. Voilà. Et les camarades, oui, viennent voir les médiateurs dans la cour de récréation, puisqu'ils sont visibles, ou ils ont des gilets, ou bien dans certaines écoles, ils ont des brassards aussi. Enfin, ça dépend des choix des écoles. Et puis, ils vont écouter la partie A, la partie B. Et puis, les auteurs des violences vont essayer eux-mêmes de trouver des solutions. Ce ne sont pas les médiateurs qui les trouvent, mais qui les aident à trouver.
Voilà. Alors, par exemple, quand un enfant vient voir un ami médiateur en disant il m'a insulté, j'ai vu que par exemple l'astuce du médiateur c'est de surtout ne pas dire qu'est-ce qu'il t'a dit comme insulte, parce que forcément l'insulte est répétée devant l'autre, devant la victime, alors ça ne fait qu'amplifier les choses, et donc il lui dit est-ce que tu peux me dire à l'oreille quelles sont les insultes que tu as reçues?
Alors oui, on peut les dire à l'oreille, ou alors souvent les médiateurs prennent les deux enfants dont la violence est née dans un petit coin par exemple du préau, et là il faut qu'ils entendent ce qui a été dit. Et il travaille toujours par binôme, le médiateur. Donc il y a toujours questions, réponses, reformulations, etc. Et on essaye de trouver une solution. Alors ça peut être des excuses, ça peut être une incompréhension, ça peut être des petites choses comme ça.
Et ça donne quel résultat globalement dans les écoles qui pratiquent ces médiations?
Vous savez, c'est comme dans le reportage précédent, ce sont des résultats à long terme. Donc cette expérience-là a été faite l'année dernière sur une soixantaine d'enfants. Donc déjà, on a vu un peu de résultats sur le moment de la pause méridienne au niveau de la cantine, par exemple.
C'est plus calme.
Au niveau des cours, c'est plus calme, c'est beaucoup plus calme. Et puis, ça instaure un espèce de climat de confiance aussi. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand il y a des rumeurs ou quand il y a des conflits filles-garçons, on sait qu'on va aller voir les gilets rouges ou les gilets jaunes et qu'ils vont nous aider à trouver quelque chose.
Mais pourquoi ça n'est pas généralisé, cette éducation à la non-violence, dès la cour de récréation, dès l'école primaire?
Généralisé dans quel sens?
Pourquoi il n'y a pas ça systématiquement dans toutes les écoles?
Déjà, il faut que l'équipe d'enseignants le souhaite. Il faut que ça parte de la base, c'est-à-dire que l'équipe école. Et puis, s'ils vont regarder les programmes d'éducation civique qui sont sortis en juillet ou en septembre, ça va être ça va être sur toutes les écoles, puisqu'il va y avoir une éducation à la sensibilisation, à l'empathie, etc.
Oui, c'est ça, mais pas forcément avec une mise en pratique dans la cour de récréation et avec des enfants médiateurs. Merci beaucoup d'être intervenue, Natacha Dumay. Marie-Jeanne Trouchot, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'éducation à la non-violence dès le plus jeune âge?
Pour moi, c'est absolument fondamental, parce que souvent, et je viens d'écrire un autre livre justement sur la violence à l'école, on donne à l'enfant le message que la violence, ça fonctionne, que le pouvoir fonctionne, que le plus fort va obliger l'autre. Si, bon, aujourd'hui les châtiments corporels sont interdits, fort heureusement, mais si une éducation est faite par l'obligation, par les punitions, par le jugement, par le mépris, eh bien, on donne aux enfants le message que c'est ça qui va fonctionner. Et donc, quand ils vont devenir grands, ils vont à leur tour utiliser tout ce qu'on leur a appris en le produisant sur eux. Et je pense que vraiment la société future deviendra moins violente si justement des initiatives comme celle qui vient d'être décrite sont généralisées.
Myriam Morange, vous, alors, en tant que médiatrice familiale.
J'ai un credo vraiment sur la jeunesse où je me dis ce sont les adultes de demain. Et ces médiateurs en germe feront la société de demain, en partie en tout cas. Par contre, on ne peut plus dissocier l'éducation nationale de ce qui se passe à la maison aussi. Parce que nous avons des enfants qui vivent des choses liées aux violences conjugales, violences intrafamiliales, aux ruptures, recomposition familiale avec un beau-parent, une belle-mère. Des enfants qui vont chez papa un week-end sur deux et là, il est avec une autre dame, d'autres enfants qui ont pris le territoire, possession du territoire. Et il peut y avoir des passages à l'acte où ils vont être plus violents. Alors, le message du médiateur familial, en tout cas, c'est de pouvoir mettre ses parents en face à face, en côte à côte plutôt, et d'avancer sur la place que veut cet enfant. Il a juste besoin de prendre du temps avec papa un peu plus. Et quand il se met à frapper un enfant à l'école ou à la maison, c'est juste papa, prends une heure avec moi, je suis important. Donc ça interroge aussi la question de l'appartenance, là d'où l'on vient. Mais et de la place qu'on nous donne.
La médiation familiale lors de séparation, de divorce, est quand même beaucoup plus pratiquée aujourd'hui en France, hein, même si elle l'est beaucoup moins qu'un pays comme le Canada, pour éviter notamment les actions en justice. Alors où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est sur la bonne voie?
Alors je pense que nous sommes sur la bonne voie, puisque il y a eu beaucoup d'expérimentations, puisque nous sommes à l'initiative à Arras, dans le service avec le TGI d'Arras, le tribunal de grande instance, où on se sépare et on divorce, on règle les conséquences de la séparation. Nous avons mis en place un certain nombre d'expérimentations, de préalables obligatoires. Tenter une médiation familiale depuis la décision du juge. Le juge est très important. En même temps, l'objectif est de déjudiciariser, donc de sortir du tribunal un certain nombre de contentieux qui n'y ont pas leur place. Arrêtons d'imaginer que le juge...
Contentieux dans le couple, donc.
Voilà.
Mais quels sont les freins dans les mentalités lorsque vous proposez à un couple qui se déchire une médiation familiale? Quelle est la réaction, très honnêtement?
La réaction, c'est de ne pas vouloir se retrouver avec l'autre à côté. Donc, de ne pas systématiser tout de suite l'entretien à deux, pouvoir dire, mais on peut vous recevoir individuellement. En même temps, ils prennent conscience à un moment donné que être séparé et devoir continuer à faire comme avant, mieux qu'avant, parce qu'on a un enfant et on a donc un CDI qui est l'enfant, ça va être compliqué. Donc il faut un autre espace pour être aidé.
En même temps, j'imagine qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui disent bon bah c'est bien la communication sans violence, mais enfin ce qu'il faut aussi c'est obtenir ce qu'on veut obtenir. Vous Marie-Jeanne Trouchot, vous dites il s'agit pas non plus de devenir ce que vous appelez un paillasson.
Absolument.
vous avez établi des sociotypes comme ça dans la communication.
Il peut y avoir beaucoup de puissance, ce qui ne veut pas dire de violence, ni d'obligation, ni de rapport de force. Mais justement, la puissance et l'intensité sont vraiment à l'œuvre, parce que, bien entendu, il s'agit d'avoir des convictions, mais pas d'essayer de convaincre, pas d'essayer de vaincre, pas d'essayer d'avoir le dessus, mais justement d'avoir tellement de force de conviction qu'on entraîne plutôt qu'on oblige. Mmh. Il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de vaincu. Il y a quelque chose qui attire, mais pas quelque chose qui oblige.
Alors, je voudrais qu'on termine cette émission en donnant des conseils très concrets, voire même un mode d'emploi, parce que c'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre livre. Par exemple, Zadson, qui est à N'Djamena au Tchad, nous dit « Pour gérer un conflit, il faut du silence. Lorsque deux personnes se disputent, il faut les séparer, qu'elles ne se parlent plus. » J'ai lu aussi des messages qui disent « Quand l'autre élève la voix, parle de plus en plus fort, s'énerve de plus en plus, qu'il faut au contraire soi-même au fur et à mesure baisser d'un ton à chaque fois et parler de plus en plus bas pour calmer le jeu. Pour conclure, Marie-Jeanne Trouchot, si on résume, qu'est-ce qu'il faut faire pour désamorcer la violence en face de soi et pour obtenir malgré tout ce que l'on souhaite, c'est-à-dire être entendu?
Il faut comprendre que la violence provient toujours du fait que l'autre a un besoin fondamental qu'il sent heurté, blessé. Un besoin de reconnaissance, par exemple, ou un besoin de légitimité. Et donc, il faut venir soigner ce besoin. Et si quelqu'un hurle en face de moi, je vais lui dire, explique-moi ce qui te met en colère.
J'écoute, je résume ce que dit l'autre pour montrer que j'ai entendu, que j'ai compris. Je donne mon point de vue, je donne mon besoin.
Après. Mais d'abord, je comprends que si tu es si énervé, c'est que quelque chose en toi est vraiment en colère.
Et voir, on propose une solution ensuite.
Tout à fait, bien sûr.
Merci à toutes les deux. Marie-Jeanne Trouchot, vous publiez La communication sans violence, c'est édité chez Erol. Myriam Morange, merci d'être venue dans le studio. Vous êtes médiatrice familiale à l'UDAF. Merci à vous tous, les voisins, les voisines, pour vos témoignages. Je sais que c'est vous aussi en grande partie qui faites l'émission tous les jours, du lundi au vendredi. Et l'équipe, Éléonore Krenik, Camille Nérand, Romain Dubrac, Didier Cherouze. Pour toutes vos réactions, vous pouvez aussi nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Demain, 7 milliards de voisins, apprendre à lire pourquoi tant de mâles ont du mal. Comment dépasser la querelle